Deezer Originals. Écoutez les meilleurs podcasts sur Deezer et découvrez nos créations originales comme Sérieusement avec Pablo Mira, Nostalgie 2050 avec Thomas VDB ou encore Football Recall, le podcast de SoFoot.
Thomas, oui. On a reçu un courrier de la Fédération française des engins de manutention des bâtiments et travaux publics.
Ah, très bien, on a un bon public. Ouais. Hein. Large.
Alors, ils protestent.
Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a fait ?
À propos de ton son de grue de la semaine dernière.
Ah oui, le supporter turc qui a loué une grue pour assister au match gratuitement. Ouais.
Et dans le son, rien ne te choquait ?
Non, c'était un son de grue normal, grue mobile quoi. Hein.
T'as pas entendu un petit peu le radar de recul ?
Non, il y a un radar de recul sur les grues mobiles ?
La Fédération française des engins de manutention du bâtiment et travaux publics, eux ils ont remarqué.
Ah oui, c'est pas le bon son.
C'est pas le bon son.
Oui, j'ai tapé camion recul pour avoir le bruitage.
Ouais. Donc ils nous ont envoyé une banque sonore.
Ah, très sympa.
On l'utilisera dans les prochaines émissions.
Vas-y, fais voir juste un, là, comme ça. Pas mal. Ah ben, ça me donne des idées de rubriques, je crois.
Football. Football Recall. Football
Recall. Bonjour et bienvenue dans Football Recall, l'émission qui prend les matchs les uns avant les autres. Tous les mercredis, sur les sites de SoFoot et de Deezer, on te spoil ton week-end de foot. Pendant 30 minutes, on va te raconter ce qui va se passer du vendredi au dimanche soir.
Avec Football Recall, tu vas enfin réaliser ton rêve, marcher de République à Nation, un sandwich merguez à la main en écoutant Je rêvais d'un autre monde.
Oui.
Football Recall, c'est le podcast écouté par 450 000 personnes selon les chiffres des syndicats.
Je suis Thomas et je bois une canette transparente.
Oui, c'est pour ça que d'ailleurs tu as un petit peu
qui vient de Malaisie, oui, tout à fait.
Et je suis Mathieu et voici le sommaire de ce 18e numéro. Tu te souviens quand Kevin t'avait traité de gros con parce que tu l'avais battu à Mario Kart ? Bah là c'est pareil, sauf que c'est entre l'OM et l'OL. Football Recall fait le point sur le clash ultime de la Ligue 1.
Là, je sais pas, t'es en train de jouer à quoi là avec Anthony ? Parce qu'Anthony il est en train de s'embrouiller avec toute la maison.
Ça va me retomber dessus, mais là, c'est vous là qui vous excitez pour rien.
Tu m'as vu, tu me vois plus, Neymar est de retour en France mais pourrait quitter Fissa la Ligue 1 et c'est le cœur de notre championnat qui saigne.
Ah bah mon vieux, si j'aurais su, j'aurais promis.
En France, les manifs se succèdent depuis que la France est France. Cette semaine, on s'intéresse au syndicalisme dans le foot. Rencontre avec Sylvain Castendutch, le Philippe Martinez du foot français. Et tradition oblige, on va vous dire quelles banderoles vont déployer les ultras de toute l'Europe.
Souricière, S-O-U-R-I-C-I-E-R-E.
Football Recall.
Et comme chaque semaine, Mathieu, on est accompagné par deux journalistes de l'équipe
Society et SoFoot.
Et SoFoot, exactement. Aujourd'hui, c'est le grand retour de Swan. Regarde.
Bonjour tout le monde.
Regarde comme il est beau.
Ouais, il est bronzé, très bronzé.
Tu reviens de l'étranger.
De l'étranger, je suis étranger.
Exactement.
Et encore plus maintenant.
C'était bien ces vacances ?
C'était très bien, voilà, vous ne m'avez pas manqué du tout.
Ah ben ça fait plaisir. ASC Swan ?
26, je supporte le club qui est finaliste de la Ligue Europa.
Paraît-il. Lequel ?
C'est pas l'Atlético Madrid.
Ok, le club français donc.
Voilà, et je suis un garçon.
Très bien. Et on reçoit aussi de retour de Bangkok.
Exact.
Il faut se rappeler qu'il était en duplex.
Il était en duplex, bien sûr.
C'est comment moi ça qui t'ai ramené ta canette, ouais. Même.
C'est vrai. Comment
coup,
ça va,
Flo? Il a changé de sexe, du coup.
Oui, alors ASC, on va donc se savoir dans l'ASC, Flo.
23 ans.
Ouais.
Inconnu.
Ah,
et voilà. Paris Saint-Germain.
Toujours Paris Saint-Germain.
Ouais.
C'est bien. Tu n'as pas changé. Il faut du courage. J'ai envie de basculer dans le week-end.
Bon, on y va tout de suite. Alors.
Allez, go.
Vendredi, 16h.
Swan.
Thomas.
Que pendant ton voyage à l'étranger, donc,
ouais.
Tu as pris des substances narcotiques
qui
t'ont permis d'avoir des flashs, des visions.
Ouais, alors,
notamment.
Notamment, ouais.
Ouais.
Déjà, j'ai envie de partager une anecdote de voyage avec vous.
Vas-y.
C'est que j'étais en Indonésie, j'ai rencontré un prof de surf qui était fan de Ligue 1 et qui m'a demandé si je connaissais Steve Savidan. Et je trouvais ça très drôle. Et je trouvais ça vrai.
Le seul mec dont tu t'as parlé, c'est pas Neymar.
Non.
C'est pas Di Maria.
Do you remember Steve Savidan ? Je fais, bien sûr.
Il avait un maillot.
The Bicyclette. Voilà, c'est véridique.
C'est fou. Pourquoi ?
C'était très drôle. Bah, il a dit qu'il aimait bien la Ligue 1 et qu'en Indonésie, tout le monde regardait la première ligue.
Oui,
et que lui, du coup, il avait envie d'être différent apparemment, et vraiment différent, parce qu'il parlait de Steve Savidan.
Et donc, c'est des cargos qui amènent des VHS de Ligue 1.
C'est pour ça. Tu lui as filé des
nouvelles. Mais du coup, j'ai pris des drogues qui m'ont permis de consolider mes talents de visionnaire.
C'est le boulot, hein, y a pas de souci. Hein.
On va commencer par une banderole strasbourgeoise face à Lyon.
Ouais.
Les mecs sont quand même assez férus d'histoire, c'est quand même un des meilleurs publics de France, la Méno, de très loin.
Plus chaud.
Voilà, et beaucoup de super supporters et beaucoup d'autodérision. Mm-hmm. Du coup, affiché très grand en tribune pour Jean-Michel Aulas, on a déjà tout cassé chez nous. Allez l'OM.
C'est plus la peine.
Voilà, c'est pas la peine.
Très bien.
Voilà, ensuite, du côté de Paris, on est cultivé. Du coup, on accueille Monsieur Lamouchi pour le PSG Rennes en grande pompe avec une banderole très simple. Un seul Sabri à Paris, il jouait dans H.
Oui, voilà. Bien sûr. Tu es quand même un fan de H.
Oui, je pense que ça se respecte. C'est le nom de Ramzy, le super tenancier du meilleur bar de Paris.
Qui était le nom, c'était
je me rappelle
le Barbillon.
Voilà,
je crois.
Putain, super.
Sabri
voilà.
Saïd.
Voilà.
Alors qu'Éric Judor avait choisi Aimé Césaire.
Voilà.
Le philosophe, le romancier.
D'accord.
Ça te dit quelque chose? T'étais où dans les années 90, Mathieu?
Mais non, mais moi je
dans une cave peut-être.
H.
D'accord, très bien. T'étais déjà snob à
l'époque. Moi, j'étais sur La Classe, France 3.
Ah oui, bien sûr.
Il y a deux France.
Un autre humour. Ouais.
Désolé pour toi. Mais on va passer en Italie, où il y a eu un petit problème. Très dommage, d'ailleurs, pour la dernière de Cheikh Diabaté.
Aïe. Mm-hmm.
Pour le match entre Benevento et Genoa. Je vois que Florian acquiesce.
Oui, hein, oui, bien sûr.
Voilà. Il y a eu un remerciement des ultras du Benevento en italien. Grazie a te, Cheikh. C'est un grande bomber, ce qui veut dire un grand attaquant, évidemment. Sauf que, en France, Touche pas à mon pote et la Licra n'ont ouais. pas compris. Et du coup, ils déplorent le raccourci fait entre la religion du Malien et l'éventualité d'explosion d'une bombe. Voilà. Du coup, ça fait pas mal de... Ça, voilà, c'est
bien
vraiment
sûr.
C'est la cacophonie en France depuis.
Oui.
Alors qu'on espère tous le retour de Cheikh Diabaté en France.
L'immense Cheikh Diabaté, voilà. Bien sûr. Tu as pris des substances, donc. Tu peux voir des banderoles, mais
ouais.
Tu peux voir aussi d'autres choses.
Malheureusement, j'ai...
Pas que des bonnes nouvelles.
Voilà, le problème, c'est ça, c'est qu'avec ma famille, ça va être compliqué. Je vais devoir ne plus voir ma famille, mais je sais qu'il va tomber malade.
Ouais, ah. Il a ramené ce pouvoir d'Adonis.
Voilà, du coup, sur la pelouse de Huddersfield Town, Arsène Wenger pousse le vice. Je ne sais pas si vous avez vu pendant son speech d'au revoir
oui.
à l'Inter.
Très émouvant, d'ailleurs. Mmh.
Très émouvant, ouais, mais le mec, bon, voilà, 22 ans de carrière, et il commence, il dit, voilà, sœur Alex, je pense à toi. Mmh.
Bien sûr.
Ouais, moi j'y crois pas.
Voilà. C'est vrai.
Ouais, non. C'est du coup il va pousser le vice et tomber malade. Voilà, donc il va se pointer à Huddersfield sans sa doudoune magique et il va pousser l'hommage à Sir Alex. Voilà, comme
jusqu'au
ça.
Bout, quoi.
Ouais.
Jusqu'au
voilà.
bout. Bel hommage de la part du Français.
Un peu plus loin, on va aller à Kasım Paşa en Turquie pour un peu d'exotisme. Mm-hmm. Où Ümit Özat, le coach de Gençler Birliği.
Oui.
Pardon.
Wow.
L'équipe du. Je l'ai pas mal prononcé.
Oui,
hein,
pas mal. Oui,
ouais,
ça.
Je mange énormément de sandwich turc.
Le frère de Pogba.
Voilà. Ouais. Le coach aussi, lui, il a décidé de se casser. Voilà, donc il est malade, il s'en va, il laisse tout le monde tomber, mais par contre ses joueurs vont pas le frapper évidemment parce que sinon c'est pas drôle. Mais oui, le frère de Pogba, c'était là quand même la folie de
il
la, folie
est
de la
mangé,
semaine.
Il s'en est mangé.
Pas mal, ouais. Et enfin, un problème à Monaco pour Leonardo Jardim.
Aïe.
Ouais, donc ce samedi, c'est la journée mondiale du commerce équitable. Et
tout
du coup, en ce qui concerne les ventes de joueurs, Monaco, ça va pas du tout. Du coup, grosse crise d'angoisse pour Leonardo Jardim avant Monaco Saint-Étienne. Du coup, il ne sera pas sur le banc pour ce match. Voilà.
Le pauvre. Ça, c'est des scoops, ça, Mathieu. Hein.
Je suis bluffé.
Ça va pas du tout.
Une hécatombe. Ah ben, prenez soin de vous, prenez des médicaments. L'homéopathie, ça marche. C'est un message. Oui, je suis sponsorisé par la Fédération de l'homéopathie.
Samedi, 15h.
Samedi, 15h, la veille d'affronter la Roma, Gianluigi Buffon est sur son ordinateur et se prend la tête. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, le gardien de la Juve est sorti de la scène européenne par la petite porte. Hein, rappelez-vous, ce qui a dû être son dernier match de Coupe d'Europe. Il a fini par craquer face à la décision de l'arbitre. Mathieu, tu t'en rappelles?
Oui, il a pris un rouge sur un penalty à la dernière minute qui a éliminé la Juventus, qui était tout proche de faire une remontada,
c'est
comme
ça.
On dit.
En quart de finale retour de la Champions, on a vu Buffon se précipiter sur l'arbitre, lui hurler dessus et le bousculer. Carton rouge, évidemment, rideau. Dans la presse, Gianluigi s'est lâché. Il a dit, je cite, « Cet arbitre n'a pas de cœur, il a un sac poubelle à la place du cœur. » Bonne vanne.
Oui, bah oui.
Je sais pas d'où elle sort, mais elle est assez bizarre. Tout le monde lui tombe dessus. Les médias, les anciens joueurs comme Michael Owen, Del Piero ou Oliver Kahn. Oliver Kahn qui est bien placé pour parler de sang-froid, je crois. Mais tout ceci est bientôt oublié puisque, eh bien, à 40 ans, il revient sur le devant de la scène médiatique. Mathieu, est-ce que tu vois ce dont je parlais?
Il va pas faire un danse avec les stars quand même.
Non, encore mieux. Non seulement la Juve est en tête de la Serie A. Mm-hmm. À deux journées de la fin et potentiel.
Oui, c'est quasi fait, je crois, en plus. Ouais. Il y a 6 points, je crois, il y a 6 points d'écart.
C'est ça, c'est un fauteuil. Mais ce n'est pas ça. Non, Gianluigi Buffon a trouvé sa prochaine aventure. Gigi ne va plus être capitaine, il va être désormais commandant. Il vient de s'engager avec World of Tanks.
Oh non,
World of Tanks.
Oh non,
oui.
Quelle
alors,
tristesse.
C'est pas un nom de club de foot en Russie.
Hein, c'est quoi, c'est des espèces de pubs que t'as sur ton iPhone avec les jeux de
exactement, exactement. C'est un jeu de simulation de chars de combat en ligne. Oh là, et oui, Swan, c'est un jeu gratuit. Il y a plus de 160 millions de personnes qui jouent dans le monde.
Quelle tristesse. Mais attends, est-ce qu'il prête son visage juste pour de la pub ou est-ce qu'il est genre modélisé et que du coup il est dans le jeu?
Eh ben, tu vas voir, c'est ça la feinte. Il prête son visage à la pub. Et d'ailleurs, pourquoi Buffon?
Parce qu'il arrête tout. Je suis sûr qu'il y a un truc comme ça, il y a une espèce de slogan.
Eh ben non, parce que, bonne nouvelle les mecs, les chars italiens débarquent dans le jeu.
Oh,
eh ouais,
superbe.
Bazeltov. Et donc, ça va tout changer. Je cite donc le communiqué de presse.
Donc ça va tout changer.
Oui, ouais. Je cite le communiqué de presse que j'ai reçu. Hein. Les chars italiens disposent d'un système de rechargement automatique unique qui apporte une très grande diversité tactique. Ouais, parce que normalement, tu prends un tank et tu fonces dedans, tu tires tes missiles. Avec les chars italiens, rien à voir, il y a plus de classe.
Finalement,
quoi.
Ils y seront la Coupe du Monde. La Coupe du Monde des chars d'assaut.
Coupe du Monde de tanks, quoi. Et c'est pas tout, puisque vous pourrez également, non pas voir, mais entendre Gianluigi Buffon dans le jeu. Oui, mais attention, c'est que sur les chars italiens. Vous allez voir, ça met des frissons.
Pilota ferito. Agganciato.
Ça c'est Buffon, ça.
Ça c'est Gigi. Fouah, ça me fout les frissons, moi.
J'aurais préféré qu'il fasse un love story ou un truc comme ça.
Mais non, c'est encore mieux, t'imagines. C'est la Seconde Guerre mondiale et hop, t'as Gigi Buffon qui tue en désordre dans les oreilles. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux?
On l'a pas vu venir cette reconversion-là. Hein.
Bien sûr. Donc c'est uniquement dans les chars d'assaut que vous pouvez avoir la voix de Gianluigi Buffon. Et comme dans chaque communiqué de presse digne de ce nom, évidemment, t'as toujours, tu sais, une citation, une quote du mec. Quoi. Mm-hmm. Et donc là, je l'ai, elle est magnifique. Donc je cite Gianluigi Buffon. Il y a toujours de nouveaux défis prêts à vous renverser, mais vos coéquipiers sont là pour vous épauler. Et avoir quelques chars à votre disposition rend la vie un peu plus facile. Et franchement, elle a raison. Hein,
mais c'est vrai quand on s'emmerde.
Mais évidemment, mais ça facilite la vie. Regarde, t'as la circulation, hop, il y a du monde, des embouteillages, tu prends ton tank, tu roules sur tout le monde et paf, et voilà.
T'es sorti des bouchons.
À toi la belle vie. Merci, Commandante Gigi.
Football Recall. Samedi, 22h54.
Vraie histoire, hein.
Je peine encore à y croire.
Je pensais que c'était une vision de Swan.
Non.
En fait, je suis parti en vacances avec Thomas, il a pris les mêmes choses que moi.
Mais cette canette a un drôle de goût, ça, non?
Bon, bref, samedi 22h54, les joueurs du PSG pourront enfin lever le trophée de champion de France chez eux au Parc des Princes après une victoire 2-0 face au Stade Rennais. À côté, on prédit l'avenir.
Oui, bien sûr, évidemment.
On prédit
petite
pas moitié.
Victoire,
hein.
Petite victoire.
À côté des Parisiens en short, Neymar, tout sourire dans une tenue d'aussi bon goût que le design de l'Hexagone, le trophée de la Ligue 1.
Ouais, très classe.
Car Neymar est de retour en France et c'est sûr, ça ne vous a pas échappé, puisque même l'AFP a fait une dépêche classée urgente. Mm-hmm. Je vous cite en intégralité.
Bien sûr.
La star brésilienne du PSG Neymar a atterri au Bourget, entre parenthèses, source aéroportuaire. Donc Neymar est de retour, mais avec lui les rumeurs aussi d'un départ du PSG. La plus chaude l'envoie au Real. C'est Marca qui l'affirme en une. Neymar veut jouer avec Cristiano Ronaldo. On espère que Cristiano Ronaldo ne va pas être transféré à Quevilly-Rouen.
Oui.
Parce qu'à ce moment-là, c'est un peu emmerdant pour Neymar.
Pas de bol.
En cas de départ au bout d'une seule saison, la fameuse attractivité de la Ligue 1 en prendrait un coup. Et on se souvient d'ailleurs de ce que disait Didier Quillot, qui est le directeur général de la Ligue de foot.
Oui, bien sûr.
Pour moi, c'était un groupe de musique. Hein.
Dernière danse.
C'était ça.
D'accord.
On écoute Didier Quillot, c'était sur Europe 1 en août dernier.
Neymar, il va contribuer à remplir les stades de Ligue 1, il va faire augmenter les audiences devant Canal Plus et Bein, nos diffuseurs. Donc il va augmenter l'attractivité de la Ligue 1, la notoriété de la Ligue 1, à l'international en particulier.
Vous voyez les dollars dans les yeux?
Bien sûr, et puis il pense qu'à ça.
Alors, Didier Quillot, il était content. Alors c'est con parce que depuis, donc, les dollars sont en train de se transformer en roupies. Mm-hmm. Et pile au moment où la Ligue de foot ouvre son appel d'offres pour les droits télé 2020-2024. Donc je vous invite d'ailleurs à aller lire la plaquette de présentation de l'appel d'offres. C'est une belle plaquette, il y a plein de photos, plein de chiffres.
Ouais.
Tout ça pour nous prouver que notre championnat vaut un blockbuster de Michael Bay.
Ouais.
Et parmi les arguments cités, on trouve une liste de joueurs stars. Donc on nous dit, il faut investir à tout prix dans la Ligue 1, il faut acheter les droits télé parce que en Ligue 1, on trouve Neymar,
voilà.
Balotelli, Fekir, Cavani et Di Maria.
Ils vont tous se barrer.
Ils ont tous un point commun.
C'est que des joueurs qui ont aussi annoncé leur départ. Donc Balotelli, lui, il l'a dit, il se voit clairement retourner en Italie.
Okay.
Fekir est annoncé à Liverpool. Et l'Atlético achète des joueurs comme on achète des perruches, c'est-à-dire par deux. Les médias espagnols envoient Cavani et Di Maria à l'Atlético.
Ah, ok, par paire, très bien.
Donc évidemment, il y a plein de raisons qui font que la Ligue 1, ça reste compétitif. Il y a cette émergence d'un top 4.
C'est vraiment français, c'est la Ligue.
Le retour du Nîmes Olympique.
Le retour du Nîmes Olympique aussi, aussi, évidemment.
Tu as de la famille à Nîmes, Flo ?
Absolument pas.
D'accord. Mais ça la fout quand même mal de voir des joueurs de Ligue 1 utiliser notre championnat pour juste rebondir.
Tremplin, ouais.
En même temps, quand on y pense, un hexagone, c'est pas mal pour un trampoline. Parce qu'il y a 6 sommets, ça permet de bien tendre la toile. Et 6 côtés, ça donne une bonne stabilité à l'ensemble.
J'étais super nul en géométrie.
Dimanche, 17h30.
Et dimanche, 17h30, à Lyon et à Marseille.
Et il enchaîne. Et
oui, ça enchaîne. Tu vois Alliance Ethnique, là ?
Oui, bien sûr.
Bah, j'étais dedans.
Ah ouais ?
Ouais, c'est pour ça le flow.
Dingue, comment va Kamel ?
Il va bien, il passe le bonjour.
Il est toujours avec Chris Naron ou Muriel Urtis ?
Ah ça, je ne savais pas.
Ouais, l'une des deux.
Fun fact. Ouais. Donc à Lyon et à Marseille, Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Hérault auront visionné pour la troisième fois le match de la veille. Alors pas comme on pourrait le croire, parce que Aulas se sera enfilé à 3 reprises le match de l'OM à Guingamp, pendant qu'Hérault, lui, aura examiné sous toutes les coutures le match de Lyon à Strasbourg. Et tout ça pour bien compter les erreurs d'arbitrage qui auraient pu profiter à l'OL ou à l'OM.
Ouais.
Alors si je vous raconte ça, c'est que vous le savez, c'est la guerre entre l'OM et l'OL, et je vous résume pour ceux qui n'auraient pas suivi, parce que c'est important aussi d'expliquer les choses aux gens qui
suivent. Il faut expliquer,
voilà.
Bien sûr.
Donc je résume la crise entre l'OM et l'OL. Donc les Marseillais ont d'abord dit de la merde. Du coup, Jean-Michel Aulas a lui-même dit de la merde.
D'accord.
Le président de l'OM, Jacques-Henri Hérault, ne s'en est pas laissé compter, a donc dit de la merde. Bruno Genesio, coach de l'OL, est à son tour monté au créneau pour dire de la merde. Ce qui n'a pas plu à Rudier Garcia, l'entraîneur de l'OM, qui a choisi aussi de dire de la merde.
Bon, voilà.
On en est à peu près
en
là.
En gros, tout le monde,
c'est bon, tout le monde a compris.
Voilà.
Donc, je vous propose à cette occasion un petit jeu. C'est très simple. À chaque fois, je vais vous donner une info.
Oui.
Bon, des vraies infos.
Sans tu connais Swan et les jeux. Hein. Il adore ouais. Le jeu, il adore troller.
Vous me dites si cette info, c'est de la faute de Lyon,
okay.
De la faute de Marseille, mm-hmm. Ou alors si c'est la faute à pas de chance.
Ok. Vas-y, Alain Chabat.
On y va. Si on ne peut plus chanter, qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les Verts, c'est la faute...
À Lyon.
Oui, Lyon.
Oui.
Puisque Lyon, avec ses 7 titres consécutifs, a effacé quelque peu les 10 titres de Saint-Étienne.
Donne-moi un miam, s'il te plaît.
Si la tartine retombe toujours du côté de la confiture, c'est la faute...
À pas de chance.
À pas de chance.
Oui.
Même s'il y a certaines études scientifiques qui montreraient, enfin qui expliqueraient pourquoi, mais bon, on n'y croit pas.
C'est un fun fact. Non, il n'y a pas de fun fact derrière.
Non, je pourrais en partir en fun fact, mais on n'a pas le temps. Si tout le monde triche à la belote, c'est la faute
à tout le monde.
À l'OM. Tu me fends le cœur.
Eh oui, exactement.
Oh,
de
oui,
Marseille.
Marius,
parce Fanny. Qu'on écoute ce son.
Tu me fends le cœur, hein. Oh, non, César. Pas de César, tu me fends le cœur.
Voilà, une fameuse scène.
Tous les gens qui ont moins de 65 ans se disent ouais. Ah ouais, j'étais pas
bien. C'était bien. Non, tous ceux qui ont plus de 65 ans disent c'était bien.
Oui.
Et ils vont vous écouter encore plus.
Bien sûr, bien joué.
Ils savent pas comment ça marche, 10 ans. Je suis
désolé.
Hein.
Ils sont quand même pas mal podcast, les seniors. Hein. C'est vrai que t'en passes souvent dans la rue.
Si la peste noire a décimé l'Europe, c'est la faute.
À Marseille.
Oui.
Ah bon
pourquoi c'est une histoire, c'est historique. C'est là-bas que ça a débarqué.
Exactement. 1347. Marseille est le port d'entrée de la peste noire en Europe. 25 millions de morts, les mecs, la peste noire.
Bien vu, ouais, bien vu. Il y avait déjà Jean-Claude Godin à l'époque. Hein. Je crois que c'est lui qui a accueilli les gens.
Pas bienvenu.
Très mauvaise imitation de ma part.
Très non, très
on
non.
Est ravis d'avoir la peste noire.
Ah, tu vois, Galabru, Godin, ouais, ouais. Les deux sont là.
Mais t'avais bien le côté rocailleux de Godin, voilà. Oui. Thomas. Non, c'est pas mal.
Très bien, on l'embrasse.
Si on ne peut pas tous parler allemand aujourd'hui et faire partie de la grande nation allemande, c'est la faute
aux Américains.
Et non, c'est la faute de Lyon.
Pourquoi ?
Parce que le général de Gaulle avait dit « Lyon est la capitale de la résistance ». Et je vous rappelle que Jean Moulin, par exemple, a été arrêté dans la banlieue de Lyon.
Ah, mais qu'est-ce qu'on apprend les choses, c'est fou. C'est vraiment un podcast pour les seniors ouais, hein, cette semaine.
Si l'on a dû subir des films comme Les Bronzés 3 ou Disco, c'est la faute de...
Marseille ?
Fabien Antoniette ?
Non, c'est la faute de Lyon, puisque c'est à Lyon que le cinéma a été inventé.
Oui,
Ok. Si nos oreilles saignent en entendant ça...
Plein de plaques sur béton pour décor chimérique. L'horizon graffiti a cassé tes musiques.
C'est la faute de...
Bah là,
c'est pour vous, la team années 90.
C'est marseillais, non ? On entend un accent marseillais, non ?
Et c'est la faute de Lyon et de Marseille.
Vas-y.
C'était Pascal Olmeta.
Oui, bien sûr.
Et,
oui.
Et en fait, il sort ce morceau, tape dans un ballon.
Mmh. Tape dans un ballon.
Après avoir gagné la Coupe d'Europe avec Marseille, alors qu'il venait de signer à Lyon. Donc c'est la faute des deux. Et enfin, oui. Si sportbuzzclash.fr réalise des pics d'audience en ce moment, c'est la faute
à Lyon et Marseille.
Eh oui.
Oui, bien vu Flo.
Première bonne
Alors c'est dommage parce que c'est la fin du quiz. Hein,
mais c'est
Flo.
Bien d'avoir remarqué de Paris Stéphanie.
J'en profite pour m'excuser auprès de Muriel Urtis, hein, qui est donc l'ex-compagne de Kamel dans cette nique.
Ouais. Ah donc c'était Muriel Urtis.
C'est Mimu.
Et pas Christina.
L'immense Mimu.
Maintenant c'est le burger de la mort, faut donner toutes les bonnes réponses. Toutes les réponses
Allez Flo, vas-y.
Marseille et Lyon, Lyon et
Dimanche, 21h.
Moi, je garde Mike.
Ben oui, toujours.
Et dimanche soir, comme depuis un mois, Patrick ira vérifier sur Internet les prévisions de trafic SNCF pour se rendre au boulot le lendemain. Ça ne vous a évidemment pas échappé, les cheminots sont en grève pour protester contre la fin annoncée de leur
tout
statut.
Tout à fait.
Donc là, vous vous demandez si vous n'avez pas basculé dans la matinale de France Inter.
Oui.
Pourquoi parle-t-on de syndicalisme dans une émission sur le foot? Eh bien, c'est parce que cette semaine, justement, on s'intéresse aux responsables syndicaux, aux grands héros syndicaux qui ont marqué l'histoire du foot français. Mm-hmm. Et le premier d'entre eux, Flo, tu es allé le voir, il s'appelle Sylvain Kastendutsch. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu le parcours de Sylvain Kastendutsch?
Alors, Sylvain Kastendutsch, c'est un joueur emblématique du FC Metz, toujours pour la team années 90. Ouais. En revanche, il n'a pas de moustache comme Philippe Martinez, il a plutôt une chemise cintrée. Et donc, il est président de l'UNFP, qui est le syndicat des joueurs, depuis 2006. Et il m'a reçu dans son bureau, assez cosy, près de la place de la Bourse.
C'est surtout la plus belle fin de carrière de l'histoire du football français.
Au Parc des Princes.
C'est fin de carrière sur un centre de Jérôme Bonicelle.
Oui, et c'est là où il sort sur la
Cibière. Donc là, t'as fait 600 matchs de Ligue 1 sans prendre un carton jaune et tu sors sur une balle dans la gueule.
Il a aucun souvenir de cette journée-là, enfin de ce match-là.
C'est terrible.
Le pauvre.
Bon, on écoute
Kastendutsch.
Football Recall.
Comme tout salarié, les footballeurs ont une convention collective pour pouvoir justement tous ensemble défendre les droits dont disposent les footballeurs. Donc c'était l'argument principal. Après, il y en a beaucoup d'autres puisqu'on propose aussi pas mal de services, hein, que ce soit dans le domaine de la gestion de patrimoine, de l'assurance individuelle, de la formation en reconversion, sur l'aspect juridique. Donc quand ils avaient des questions, des besoins ou des difficultés, ils pouvaient et ils devaient appeler l'UNFP pour trouver des solutions.
Comment le syndicat a été créé? Comment ça s'est fait? Pourquoi?
Jusque-là, il n'y avait pas d'organisation de joueurs. Les présidents de clubs faisaient ce qu'ils voulaient. Les joueurs étaient sous contrat pendant toute leur carrière et étaient à la merci des dirigeants. Donc en fait, Raymond Coppa en tête, à un moment donné, au milieu des années 60, a élevé la voix pour l'ensemble des joueurs en disant qu'il fallait discuter avec les employeurs, avec les présidents de clubs, pour essayer de changer cette situation et faire qu'à un moment donné dans leur carrière, les joueurs, eux aussi, puissent un peu avoir quelques possibilités de changer de club ou d'employeur quand ils le souhaitaient. Donc, le grand changement, en fait, ça a été l'instauration du contrat à temps, puisqu'on est passé au contrat à durée déterminée, et puis en parallèle, en même temps, ça a été justement la négociation et la mise sur pied de cette convention collective, la charte du football professionnel, dans laquelle il y a les droits et les devoirs des salariés, qu'ils soient joueurs, entraîneurs, et puis les règlements de toutes sortes concernant ces professions. Donc il y a quelques mesures, je peux vous en sortir une autre, c'est qu'on a eu aussi un phénomène de joueurs à un moment donné mis à l'écart. Voyant ce phénomène prendre de l'ampleur, on a négocié avec les dirigeants un article qui fait qu'à un moment donné, le club est obligé de réintégrer le joueur avec le groupe pro, bon, à défaut de le faire jouer les matchs, mais en tout cas, il est obligé au moins de pouvoir faire son métier et de s'entraîner avec ses coéquipiers. Athènes, c'est un très bon exemple. Athènes, dans un autre pays, il faut pas aller loin, par exemple en Angleterre, Athènes, il se serait même pu entraîner avec ses coéquipiers, il aurait été carrément mis à l'écart tout en étant payé. Et on a réussi avec les dirigeants à mettre un article dans cette charte qui font que les clubs, à un moment donné, sont quand même obligés au minimum, de faire s'entraîner le joueur avec le groupe pro.
Très bon exemple de Tem Ben Arfa qui a été mis au banc, mis à l'écart et du coup qui a dû faire appel, il a dû menacer de faire un procès, je crois, pour ensuite être réintégré au groupe pro, c'est ça, Flo?
Ouais, et donc voilà, ce qu'il explique bien, Sylvain Kastendutsch, c'est que à chaque fois qu'il y a une décision qui se prend pour un joueur, il y a toujours l'UNFP qui est là justement pour faire respecter les droits des joueurs. Et si il y avait pas l'UNFP, clairement Ben Arfa serait entraîné toute l'année avec la CFA. Mmh.
Et ça, en fait, ça marche exactement comme dans le milieu dans une entreprise classique. En fait, c'est quand un salarié est convoqué pour un entretien, par exemple préalable, un licenciement ou un blâme ou je ne sais quoi, il y a toujours un représentant syndical avec lui qui l'accompagne. Moi, il y a une expression qui m'a intrigué dans le sens, c'est le contrat à temps, c'est ça?
Ouais. Alors en fait, avant le tournant des années 60-70, les joueurs n'avaient pas de contrat déterminé, donc ils étaient liés à leur club jusqu'à 35 ans en fait.
Point et pied liés, je crois. Hein.
Non mais attends, ça veut dire que ils signaient à 20 ans, chaque et jusqu'à 35, ils étaient obligés de jouer.
Chaque année, ils renégociaient leur contrat avec leur président. Mais ils étaient à la botte de leur président. C'est leur président qui décidait. Si le président voulait augmenter ou baisser leur salaire, ils n'avaient rien à dire. S'ils étaient d'accord, très bien. S'ils n'étaient pas d'accord, ils étaient réfractaires. Donc en fait, ils jouaient pas. Et en général, ils acceptaient leur situation. Et s'ils voulaient signer à l'étranger, ils n'avaient pas leur mot à dire. C'était vraiment des négociations entre de président à président.
Très sympa la Corée du Nord. Très sympa cette ambiance.
Est-ce que le foot français à l'époque ne marchait pas mieux qu'aujourd'hui?
Ben oui, ça gueulait moins. Quoi. Donc en gros, si ton président ne t'aimait pas, il te baissait ton salaire et tu ne jouais pas.
Voilà, super.
Génial. Et le premier tournant, donc, ça a été l'instauration du contrat à temps. Et il y a eu aussi ensuite l'arrêt Bosman qui a permis aux joueurs de négocier librement en fait, quand ils arrivaient en fin de contrat. Parce que jusqu'à l'arrêt Bosman, même quand un joueur arrivait en fin de contrat, bah, il n'était pas libre complètement de signer où il voulait.
Donc le progrès, c'est de passer d'un CDI à un CDD dans le foot.
C'est ça l'avenir. Startup Nation, mon pote. On y est.
Flo, t'as aussi appelé Didier Brown, c'est ça, qui est un ancien journaliste de l'équipe qui lui est passionné en gros d'histoire du foot.
Un féru d'histoire du foot.
C'est ça. Et lui, il t'a parlé d'un autre syndicaliste.
Ouais, il m'a parlé du pionnier en fait du syndicalisme français qui s'appelle Jacques Mérès, qui a joué notamment au Red Star. Donc ça a été le pionnier du syndicalisme du foot dans les années 30.
Et tu parles de pionnier dans le foot, de toute façon, il a joué au Red Star, c'est obligé. Ou à Colombes.
Non, t'en as plein à Roubaix.
Oui, plein. Mathieu.
Mathieu. On écoute Didier Brown.
Football Recall.
Ben, c'est-à-dire que lui fait partie de la première génération des footballeurs professionnels. Et je pense que ça a contribué à la création d'un premier syndicat parce que ce sont des joueurs qui avaient vécu la période de l'amateurisme marron avant l'officialisation du professionnalisme. C'est-à-dire que c'était des joueurs qui gagnaient un petit peu d'argent sans être professionnel, et au moment du passage au professionnalisme, un certain nombre d'entre eux se sont rendus compte que bah, leurs conditions ne changeaient pas fondamentalement par rapport à la situation précédente. Donc ils devenaient juridiquement des footballeurs professionnels, des exigences nouvelles apparaissaient, notamment de la part du public, de la presse, mais les conditions du métier étaient encore très 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 amateurs. Finalement, ils ne gagnaient pas beaucoup mieux leur vie en étant professionnels qu'en étant amateurs 5 ans plus tôt. Et donc, il y a eu même une tentative de grève en 1938 qui a échoué parce que ben, le moment n'était pas encore venu de réunir toute une population professionnelle d'un métier tout nouveau. Donc, les initiateurs de ce mouvement-là n'ont pas été suivis par la masse des joueurs professionnels dans le contexte de l'époque. Footballeur professionnel, c'était pas du tout la garantie de faire fortune. Mon père était joueur professionnel en deuxième division. Il m'a toujours découragé de devenir footballeur. Dans les années 50 ou 60, c'est pas un métier où on gagne énormément sa vie. Donc, c'était assez difficile parce qu'effectivement, les joueurs sont à la fois coéquipiers mais aussi concurrents. Donc, à la fin de la saison, chaque joueur allait défendre son bout de gras personnel auprès du club. Il était difficile d'avoir une grande cohérence collective. Il a fallu quelques personnages, et notamment Eugène Joléa, qui avait une formation juridique très, très importante, pour constater d'une part qu'il y avait peut-être une organisation à mettre en place au niveau des joueurs professionnels pour faire face à l'ensemble des dirigeants des clubs professionnels qui, eux, avaient quand même une ébauche d'assises collectives à travers l'institution qui était le groupement des clubs professionnels.
Donc il y a eu une grève en 1938. Est-ce qu'il y avait un omnibus de la honte de cette grève de 1938?
Un métropolitain de la honte.
Et la vraie grosse grève, en fait, ça a été en 1971. Donc toujours, on en revient au contrat à temps, en fait. Là, on entendait parler de Jean Joléa. Il y avait aussi Juste Fontaine, qui a été le premier président de l'UNFP. Cette grève a permis l'instauration du contrat à temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que même il y a 10 ans seulement, en 2008, il y a failli avoir une grève dans le foot pro.
Ah.
Parce que, justement, ce qu'expliquait Sylvain Castendutch, c'est qu'on voulait les enlever, l'UNFP, des endroits où ils pouvaient négocier pour les joueurs. Et lui, ce qu'il dit, c'est que ça aurait fait clairement mauvais effet. Et ils ont réussi à à éviter cette grève de justesse.
Après, c'est un phénomène qui existe aussi dans d'autres sports. Par exemple, tu prends le basket ou le syndicat des joueurs en NBA est très très puissant. Et où là, pour le coup, ils n'ont pas hésité à faire des grèves à travers l'histoire.
Des lockouts, oui.
Pour dans une histoire plus récente même, où vraiment il y a ils défendent Mordicus leur
certains championnats, je ne sais pas si c'était la NBA, mais avaient même été décalés de plusieurs semaines. Le début de
en fait, il y a eu des saisons NBA qui ont été écourtées même. Il y a eu des saisons qui ont, normalement, il y a 82 matchs dans une saison. Il y a eu des saisons où il y a eu beaucoup moins de matchs.
Ouais, c'était super, on voyait Nicolas Batum revenir en proie.
Ouais, voilà. En NBA, en NHL aussi, où t'avais tous les grandes stars qui revenaient en Europe ou en...
Là-dessus, c'est pas que le football a du retard, mais c'est vrai que là-bas, c'est le droit et le bien-être des joueurs est limite au-dessus de tout, quoi.
Puis le syndicat a un gros poids, quoi.
Un gros poids, ouais.
Et on se rappelle, on parlait de Didier Roustan tout à l'heure hors antenne, mais Didier Roustan voulait à l'époque monter un syndicat des joueurs mondial avec Maradona.
Ça aurait été une première, parce que c'est des syndicats comme ça internationaux.
Non, ça n'a pas abouti, mais il y avait une tentative à l'époque.
D'accord. Et en gros, tu nous disais qu'il y avait quand même Raymond Coppa et Juste Fontaine qui, tous les deux, en leur temps, avaient été impliqués dans des mouvements syndicaux, des mouvements de négociation comme ça. Ce qui est étonnant, parce qu'en fait, ça revient aujourd'hui à se dire que les plus grandes stars françaises, les Thauvin, les Fekir, Mbappé, du championnat, les Mbappé, etc., montrent au créneau pour défendre leurs collègues, quoi.
Ouais, mais c'était à l'époque où les joueurs étaient de gauche, non?
Ouais, dans le temps. Ils sentaient que, clairement, ils se faisaient exploiter, quoi.
Et tu crois que les Castanets a défilé pour le 1er mai?
Non, il m'a dit que ça aurait été déplacé. C'est là que tu vois la différence, entre la mentalité américaine et française, parce que même lui, le président du syndicat du foot français, aurait trouvé ça déplacé d'aller dans la...
Eh ben, il a bien fait. Il a bien fait.
Eh ben, en tout cas, c'est une bonne discussion, un bon reportage dans l'air du temps.
Du 1er mai, c'est
ça. Foot et syndicalisme. Merci Florian. Je crois qu'on a bien fait le tour du week-end et puis on va passer, comme d'hab, au guide des matchs. Oh, pas loupé.
Football Recall.
Flo, tu es chaud.
Ouais,
absolument.
Alors vas-y Flo, conseille-nous ton match.
Enchaîne.
Le match que les Herbiers attendent depuis une saison.
Le match contre le PSG.
Non, vendredi soir, à Béziers. Le match pour le maintien en national.
Ah bah oui.
Et ouais, c'est la dernière journée du national.
D'accord.
Et heureusement, la semaine dernière, les Herbiers étaient menés 2-0 par Laval. Ils ont renversé Laval. Ils ont gagné 3-2, mais il faut encore qu'ils assurent leur maintien. Sachant qu'il y a Sanois Saint-Gratien qui peut toujours mathématiquement... leur passer devant. Il y a aussi Cholet, semble-t-il. Et en même temps...
C'est la proie, ça. Hein. Tu te trompes.
En même temps, il y a la lutte pour la montée directe en Ligue 2 avec Grenoble et Béziers, justement.
Eh ben, on embrasse
que des petits poussés. Les Herbiers vont être perdus puisqu'ils sont plus petits poussés.
Non, ils seront les grands poussés.
Ou alors, est-ce qu'il y a des très petits poussés?
Mathieu, tu continues de faire grève ou alors t'as une reco?
J'ai une reco cette semaine.
Vas-y.
Alors moi, je regarde la Ligue 2 vendredi à 20h45. On monte. On est en national, on monte en Ligue 2. Vendredi 20h45 sur Beansport, la dernière journée de Ligue 2. Moi, je regarde déjà parce que c'est un multiplex. Ouais. J'adore les multiplex parce que les commentateurs qui se coupent la parole pour annoncer un poteau, un tireur de la...
Ça a quand même perdu de sa saveur depuis qu'il n'y a plus la musique de Canal+.
Tu peux écouter la radio tous les week-ends.
Mais on l'aura sur le multiplex de Ligue 1, parce que je crois que Canal a les droits sur le multiplex de Ligue 1.
Ah, peut-être, bonne nouvelle.
Ils n'ont pas les droits sur le multiplex de Ligue 2.
D'accord.
Bref, on va savoir qui va accéder au mini-championnat pour remonter en Ligue 1, parce que vous savez tous évidemment comment se passe l'accession en Ligue 1 depuis la Ligue 2.
Mm-hmm. Barrage, maintenant.
Alors, les deux premiers sont qualifiés directement, mm-hmm. et ensuite, c'est plus des barrages pour le troisième de Ligue 2.
Play-offs.
C'est des play-offs, c'est une espèce de mini-championnat avec les équipes 3, 4, 5, 6... qui joue demi-finale, finale, et puis après le vainqueur rencontre le 18e de...
C'est à l'anglaise, quoi.
De Ligue 1.
Mais alors, c'est
à l'anglaise.
C'est un bordel, mais c'est beaucoup plus simple que les play-offs belges.
Ouais. Parce que Noé
nous, on a passé 45 minutes à raconter la montée, la descente.
D'ailleurs, il faudra qu'on le rappelle pour savoir comment ça s'est terminé.
Il est encore dessus, il nous a fait un schéma, il est encore dessus, je crois.
Je termine juste sur Marocco. Moi, il y a un poulain à suivre vendredi soir, c'est le Paris FC. Alors, non pas, je vois Florian lever les yeux au ciel. Moi, je suis pas fan du Paris FC, particulièrement, mais en tout cas, le Paris FC peut éventuellement aller jouer ce mini-championnat pour remonter en Ligue 1, ce qui nous ferait pour la première fois de l'histoire un derby 100% parisien.
Désolé
en Ligue 1.
Désolé de décevoir, parce que je crois que c'est quasiment fini pour eux.
Non, pas forcément.
Alors, plutôt entre Châteauroux et Le Havre.
Il faut que le Paris FC gagne contre Clermont et que Lorient perde à Rouen.
Ok.
Voilà. En tout cas, il va y avoir du split screen. C'est le kiff pour les mecs qui sont nostalgiques de 24 heures chrono.
Alors, d'après le site de la Ligue, il n'y aura pas de multiplex sur Canal. Ça sera sur Bein.
Oui,
parce
qu'il
y aura le match de Lyon sur Canal Plus Sport. Le match de l'OM sur Canal Plus Décalé.
Merci de donner des bonnes informations à nos auditeurs.
Ah, voilà.
Et heureusement que Thomas a le TéléZ dans sa poche. Voilà. Swan, ton match.
Alors, c'est très important parce que ça va se passer en Espagne. Ce sera dimanche. Tout le monde va espérer que le Barça perde à Levante. Et évidemment, non, ils vont leur mettre 6-0. Il n'y a pas de souci.
Suspense.
C'est le dernier suspense de la saison en Liga de savoir si le Barça va finir invaincu ou non de cette saison.
Zéro chance donc.
Non, je pense que il va y avoir beaucoup de gens vont prier pour que le Barça se plante, mais.
Alors attention, si je peux me permettre, Levante, c'est pas là où il y a notre ami
le Messi saoudien,
le Messi d'Arabie Saoudite.
C'est là-bas.
Méfie-toi.
Attention, parce qu'il peut rentrer en jeu, on sait jamais. Hein.
Et mon pote, s'il rentre, il en met 4, t'es mal.
Ouais, contre le Messi argentin, l'autre.
On aura parlé plus de ce joueur que de plein d'autres stars du foot. On a parlé 4 ou 5 fois.
C'est important d'avoir des chouchous.
Ouais. Des matchs, c'est à moi là.
Oui, c'est
ouais,
à toi. Ouais,
d'accord.
Ouais.
Et moi, je voulais vous parler de Corinthians Palmeiras. C'est du championnat brésilien.
Ouais.
Ce dimanche à 21h heure locale. Alors, il y a quelques jours, les Corinthians ont soutenu les réfugiés syriens du Brésil avec une initiative originale. Laquelle, selon vous?
Est-ce qu'il y a un engin BTP?
Non, il n'y a pas d'engin BTP. Ah, Swan, ça te dit rien?
Là, j'ai surtout super peur parce que là, depuis que tu m'as raconté l'histoire de Buffon, ouais. Moi, je ne sais pas trop quoi.
Flo?
Aucune idée.
Le club de Sao Paulo a simplement floqué le nom de ses joueurs en arabe. Et ouais, hein, putain, c'est fort comme message.
Wow.
Wow. Solidarité avec les Syriens, on met le nom des mecs. Moi, ça me fout la chair de poule. Autant que la voix de Buffon sur un tank. C'est la même émotion.
Ceci dit, quand nous on traduit des noms de joueurs sur un maillot, c'est pour séduire les Chinois pour vendre plus de matchs
aussi,
à l'étranger.
Aussi. Mais donc regardez bien ce match Corinthians Palmeiras dimanche, puisque il y aura une nouvelle initiative de la part des Corinthians. Pour l'entrée des joueurs, ils vont diffuser du Shem Mami. Et le ballon du match sera apporté sur un tapis volant. Dingue, hein? C'est fou ce qu'ils ont prévu. Hein.
C'est limite.
Oui,
le sais. Tapis volant.
C'est la fin de saison, ça va. On peut y aller dans les clichés, quoi.
Football Recall.
Et ben voilà, je pense qu'on a fait, on a bien fait le tour de nos recos pour ce week-end. Merci d'avoir écouté Football Recall. Grâce à ce podcast, vous savez déjà ce qui va se passer sur les terrains ce week-end. On se retrouve la semaine prochaine, des mercredis matins, sur les sites de Deezer et les sites de SoFoot. Merci Flo.
Merci à vous.
Merci Swan.
Merci à tous.
Très bon ce Swan, encore plus que moi.
Oui, je pense. Ouais. Moins raciste.
Oui, peut-être moins dans les clichés.
Je peux pas me permettre en même temps là.
C'est notre caution. À mercredi prochain, n'oubliez pas, Football Recall, c'est quand même plus classe qu'un béret Kangol.
Prends ça, Corneille.
Football Recall.
Messieurs, dames, place aux enchères, 10h. 5 millions ici. Ah, ça s'emballe. 12 millions. 20 millions par là. Oh, 31 millions. 39 millions ici. 43 millions pour madame. 43 millions une fois, 43 millions deux fois, 43 millions trois fois. Allez, c'est cadeau.
Abonnez-vous à Deezer Premium Plus et profitez de plus de 43 millions de titres sans aucune contrainte, même sans réseau. Deezer, le streaming made in France.